Je vais commencer déjà, et sans transition, par inviter voilà, le professeur Marie-Rose Moreau, qui va venir nous présenter donc la première conférence qu'elle a intitulée « Écart, malentendu et fécondation culturelle en éducation thérapeutique des migrants ». Il est certain que les migrants, l'interculturalité, sont toujours des demandes, des besoins exprimés par les soignants éducateurs. C'est l'occasion de partager avec Marie-Rose Moreau, qui a une très grande expérience et dont je rappelle qu'elle est chef de service à la maison des adolescents de l'hôpital Cochin, pas très loin d'ici, maison de Solène, mais en même temps elle cumule la chefferie de service de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital Avicenne, à Bobigny, à l'université Paris 13. Donc je remercie beaucoup Marie-Rose de nous avoir consacré un peu de temps pour cette journée et je l'invite à venir nous rejoindre. Merci.
Bonjour à toutes et à tous, ravie d'être avec vous. Merci de cette aimable invitation à Rémi Gagnère, à l'association Jean-François Duvernois et à tous ceux qui sont là aujourd'hui. Alors, oui, tu l'as dit Rémi, je suis pédopsychiatre et quand j'ai vu le titre que je vous avais proposé la première fois, je me suis dit que mes préoccupations pour les désirs d'enfants étaient fécondité culturelle. C'est vrai que la question de la culturelle, transculturelle est pour moi d'abord une question de comment on en fait de la créativité. Mais en préparant l'intervention pour ce matin, j'ai mis un titre plus simple pour dire d'emblée ce que je voudrais partager avec vous. C'est le fait de faire de cette différence culturelle un atout et de vous présenter la perspective transculturelle. Alors, je vais le faire, non pas, je ne suis pas une spécialiste, moi, d'éducation thérapeutique, alors je vais le faire plutôt avec l'idée de partager avec vous un certain nombre de choses que j'ai apprises avec les migrants et leurs enfants. De le faire donc à partir de mon expérience donc de pédopsychiatre, donc une expérience d'une clinique particulière, d'une clinique de la subjectivité, hein, et à partir de la souffrance psychique partagée par ces enfants et ces parents qui viennent en consultation, et de voir ce qu'on peut imaginer en faire pour l'éducation thérapeutique, sachant que j'ai la chance, j'ai en particulier lorsque j'étais à Vicennes et ça continue à Cochin, d'avoir l'expérience de faire donc de la liaison avec les médecins et de pouvoir travailler sur les questions somatiques. Et on a fait quelques études sur, par exemple, autour du diabète ou du lupus que je vous donnerai chemin faisant. Mais le plan que je vous propose n'est pas tant un plan sur la question des recherches, mais plutôt des pratiques, même si j'utiliserai quelques recherches pour illustrer le propos. Alors voilà le plan, en essayant de tenir le temps, parce que j'adore parler, échanger, tout ça. Donc je peux très facilement prendre beaucoup de temps, et j'ai promis de le faire de manière assez concise. Alors, voilà le plan donc, que je vous propose. D'abord, de planter la perspective transculturelle en essayant de l'adapter à ce que je sais et à mon expérience, donc de travailler avec ceux qui se préoccupent d'éducation thérapeutique. D'essayer de donner des éléments théoriques et pratiques sur justement comment on imagine aller du malentendu possible, parce que bien sûr qu'il y a des malentendus, il ne s'agit pas de le nier, mais à une créativité, à une sorte, comment à partir des marges, parce qu'on considère souvent la question transculturelle, ce que je conteste, vous imaginez bien, mais un peu être aux marges, eh bien comment à partir de ce que l'on considère être les marges, on peut, disons, renouveler, modifier et être plus créatif. Quelques propositions transculturelles, ensuite concrètes, à partir de notre propre dispositif. Et j'essaierai d'en tirer des perspectives avec vous et de vous poser une question surprenante, je l'espère. Alors, juste sur le plan théorique, pour dire où on se situe d'un point de vue épistémologique, Donc la perspective transculturelle, qu'elle soit en psychiatrie ou en médecine, c'est une perspective donc qui allie la discipline, par exemple la discipline médicale avec ses spécialités, pour nous la psychiatrie, la psychanalyse, mais pour la médecine ses différentes spécialités. Comment donc on utilise cette discipline en la contextualisant par des éléments culturels que sont l'anthropologie, la linguistique, parfois l'histoire, les rapports de force postcoloniaux, par exemple, interviennent beaucoup dans les perspectives transculturelles. Donc comment on utilise une autre discipline que la sienne pour modifier, permettre que cette discipline, par exemple la psychiatrie, soit adaptée à son objet, la médecine, soit adaptée à la relation, aux objectifs. Donc une intégration d'autres disciplines que la nôtre, donc des disciplines qui viennent en général des sciences humaines, que l'on choisit en fonction des besoins, pour faire que la perspective qu'on propose, aussi bien en termes d'accès aux soins, d'alliance thérapeutique ou ensuite d'efficacité thérapeutique, notre discipline à cette autre discipline pour en faire une véritable perspective qui prennent en compte la manière dont le patient lui-même se représente ce qui lui arrive, et qu'on parte donc de ces mots, de ces images, de ces représentations, de ces manières de penser pour se rencontrer, pour éventuellement modifier des choses nécessaires dans le cadre d'une éducation thérapeutique, par exemple, ou d'un projet de soins. Alors cette perspective que l'on appelle complémentariste, d'utilisation donc de plusieurs disciplines à la fois, de manière, comme on dit, obligatoire mais non simultanée, c'est-à-dire utiliser par exemple la linguistique et la psychiatrie, ou d'utiliser l'anthropologie et la médecine, mais bien sûr sans confondre. Il y a bien des objets qui appartiennent à la médecine, il y en a d'autres qui appartiennent à l'anthropologie. Donc comment on utilise ces deux disciplines de manière obligatoire et non simultanée, et on travaille sur les interactions. Comment, en acceptant une représentation culturelle, par exemple de type transgression, je suis tombée malade parce que j'ai transgressé quelque chose par rapport aux ancêtres, dans la migration par exemple, eh bien comment cette théorie, qui est une théorie anthropologique, donc, et qui est sérieuse parce que c'est celle du patient et qu'elle appartient en plus à son groupe, eh bien comment cette théorie-là, si je l'accepte, si je lui laisse une place décente dans la relation, va permettre que le patient se représente l'ensemble de ses besoins, travaille sur son parcours et s'approprie sa manière de faire. Donc, de manière obligatoire, de manière non simultanée, avec des interactions, avec l'idée que si j'accepte la logique du patient, y compris sa logique culturelle, que je me laisse affecter par cette logique, alors ça me permettra d'aller beaucoup plus loin dans le travail avec ce patient. Alors, cette perspective rapidement brossée, comme ça, elle est développée chez nous depuis une trentaine d'années en France, avec différents spécialistes qui ont travaillé là-dessus. Donc c'est quand même pas une... Chaque fois que je fais ça, je me dis, mais c'est récent. J'ai parfois l'air d'une sorte de pionnière, alors que je fais déjà partie de la deuxième, voire la troisième génération en France des gens qui ont travaillé là-dessus. Et dans le monde anglo-saxon, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, ils ont une grande antériorité sur nous, sur cette question. Et je crois que ça vient d'ailleurs de l'histoire. Hein. C'est la possibilité ou pas de penser les questions culturelles dans la relation individuelle. C'est le modèle d'intégration à la française, qui est un modèle extrêmement individuel, qui présuppose qu'on se départisse de ces représentations collectives, comme si on pouvait le faire comme ça par miracle, et le modèle anglo-saxon qui tolère, qu'on caricature bien sûr aussi, chaque modèle a ses limites, hein, mais le modèle anglo-saxon qui tolère beaucoup plus les représentations communautaires, sans que la notion de communauté soit une menace directe au pays d'accueil. Donc, c'est pour ça sans doute, hein, je crois que c'est pour des raisons d'histoire qu'ils ont une antériorité. En tous les cas, peu importe, pour dire qu'on se situe quand même dans un contexte bien plus large, et donc qui suppose des alliances avec des disciplines qui travaillent sur ces représentations de manière différente, et comment on les allie, avec évidemment une responsabilité du médecin, du soignant lui-même, qui doit faire, c'est de l'intérieur de la médecine, à mon sens, que ces questions se posent, bien sûr, même si on a besoin de toutes les autres disciplines. Alors, pour ma part, rapidement, l'expérience que j'ai développée donc sur ces questions médicales, transculturelles, elle a commencé à l'hôpital Avicenne. Donc, à l'hôpital Avicenne, avec un vrai dispositif transculturel donc, qui existe avant moi, comme je le disais, depuis les années 79. Et maintenant, à Cochin, moi, je l'ai développé avec une fédération entre ces deux dispositifs depuis 2008. Alors pour nous, c'est un dispositif transculturel qui s'applique donc aux familles migrantes et à leurs enfants en deuxième intention, c'est-à-dire pas en première intention, pas d'emblée, quand des éléments culturels, par exemple, entraînent des difficultés, des malentendus, un manque d'efficacité, un manque de possibilités de travailler ensemble. Donc on reçoit des familles migrantes d'où qu'elles viennent. L'année dernière, rien qu'à Cochin, par exemple, on a parlé une vingtaine de langues, et sur l'ensemble des deux sites, on en a parlé presque 30. Donc ça suppose un dispositif où la langue ne soit pas un obstacle, mais où la langue soit intégrée dans le dispositif. Bon, elle s'applique aussi dans certains cas à des couples mixtes, à différentes disciplines, et quand, je l'ai dit, donc quand la différence culturelle ou linguistique rend le projet de soins difficile, avec des écarts, des malentendus, pour reprendre vos mots, des préjugés surtout et des hiérarchies entre les représentations. Alors la question linguistique, à elle seule, ne peut pas résumer l'indication transculturelle, parce que si c'est juste une question de langue, il suffit à ce moment-là de prendre un traducteur. Mais la question, comme il y a une grande résistance aussi à la question linguistique, c'est-à-dire qu'on chaque fois qu'on prend des traducteurs, on devrait pouvoir en avoir dans plein d'endroits différents, et on se rend compte que notre utilisation globale, par exemple sur la PHP, des traducteurs est assez limitée. Et elle est sans doute limitée du fait de notre propre représentation des choses, parce qu'il y a bien sûr souvent, par exemple, pour parler de questions de vie ou de mort, à propos de la maladie, pour parler de questions qui concernent pourquoi j'arrive pas à suivre dans un projet d'éducation thérapeutique à faire en sorte que mon diabète soit bien équilibré, des choses qui sont des choses très profondes qui font appel au cœur de nos représentations. On peut pas se contenter d'une médecine ou d'une relation comme ça, j'allais dire vétérinaire. Vous voyez, juste dire oui, non, pourquoi pas, peut-être. Si j'avais su, j'aurais fait comme ça. Non, bien sûr, les nuances, la complexité, ce à quoi ça renvoie, les associations, qu'est-ce qui fait que la notion de sucré est pour moi quelque chose qui est de l'ordre de l'élan vital, eh bien ça, si j'ai pas accès au français dans ses nuances, si j'ai pas accès au français dans sa capacité et au passé, c'est-à-dire quelque chose, lorsque je suis migrant, il y a un moment où je change de langue, et puis progressivement, évidemment, j'apprends la langue du pays d'accueil. Mais lorsqu'on travaille avec les migrants, on sait très vite que pour parler du passé, il faut souvent accéder à cette langue du passé. C'est-à-dire qu'une langue, elle porte pas simplement une information, elle porte aussi les connotations affectives qui vont avec la représentation. Or, si, par exemple, ça fait appel à des choses du passé qui étaient pensées, moi, ma langue maternelle, pour moi, par exemple, c'est l'espagnol, si c'était dans ma langue maternelle, si je dois le retraduire dans ma langue française, il est tout à fait, dans certains cas, possible que je ne puisse traduire qu'une partie, c'est-à-dire celle qui correspond à mon identité française, à ce qui fait que à ce que je peux dire en français. Un topo technique, je peux le dire très facilement en français. Si c'était quelque chose de l'ordre affectif, je pourrais sans doute moins bien le dire, en tout cas avec beaucoup moins de nuances et de complexité. Et je serais moins à même aussi de changer la relation entre un événement, une représentation et l'émotion qui va avec. Donc cette question de la langue est pour moi fondamentale et on ne peut pas accepter simplement d'être opératoire. D'ailleurs, parfois, on me dit, écoute, on t'envoie un monsieur, je pense à un monsieur diabétique très mal équilibré qui devait être greffé et qui refusait la greffe, et on me l'a envoyé pour une consultation. Et on me disait, dans la référence, on me disait, ce monsieur, il a un fonctionnement opératoire. Non, il avait pas, le monsieur n'avait pas du tout, d'autant qu'il était gravement déprimé, il n'avait pas un fonctionnement opératoire. Mais c'est vrai qu'en français, ce qu'il pouvait exprimer en français avait l'air d'être des faits. D'ailleurs, il commençait toujours par montrer ses radios. Il montrait ses radios parce que ça, au moins, c'est objectif. Docteur, vous pouvez regarder, vous pouvez voir et vous pouvez me dire. Alors je lui disais que je savais plus lire les radios. Il me disait, c'est dommage, c'est ce qui est le plus facile, c'est de ça dont c'est le plus facile, on peut parler le plus facilement des radios, me dit-il. Alors, je dis, bon, bah alors, on va trouver moyen de parler aussi facilement, mais d'autres, avec, par exemple, un traducteur en berbère. Donc, cette question du fonctionnement où, par exemple, on n'a pas accès à la complexité, il faut toujours se demander si la résistance, la difficulté, c'est pas dans notre dispositif ou à l'intérieur de moi, plutôt que dans le patient lui-même qui ne penserait qui dirait toujours que voilà, c'est à l'extérieur de lui, c'est pas de sa faute si dans ce qu'il mange il y a plus de sucre que dans ce que mange le voisin. Hein. Donc il y a vraiment une sorte de condition préalable qui est-ce que on se comprend correctement et est-ce que le patient et donc moi par ricochet a accès à l'ensemble des choses dont il a besoin pour pouvoir exprimer ce qui lui fait mal, ce qui n'est pas comme ça devrait être, ce qui ne se passe pas normalement pour lui. Alors, je disais, alors les questions linguistiques me font toujours partir ailleurs parce que depuis une vingtaine d'années que moi je m'occupe de ces questions, je sens une sorte de focalisation importante sur cette question de la langue, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas. Quand moi je fais venir des traducteurs et puis qu'après on me demande des comptes, par exemple, sur l'importance du nombre de traducteurs que j'ai utilisés dans l'année, et on me dit, mais voilà, à côté d'autres, vous en utilisez beaucoup, beaucoup trop. Je dis non, c'est les autres qui en utilisent pas assez. Ils s'auto-censurent. Et parfois, certains de mes collègues me disent, mais en faisant ça, peut-être que tu ralentis, c'est-à-dire en permettant qu'on utilise un traducteur, par exemple, qu'une partie de la consultation au moment où on parle des choses très profondes, peut-être que tu les renvoies à des choses dépassées ou surtout peut-être que tu compromets leur intégration. Vous imaginez une consultation où on va parler des éléments qui posent problème dans la langue maternelle parce que c'est là où c'est le plus facile à dire. C'est avec cette langue que c'est le plus facile, que nous compromettrions l'intégration individuelle de ce patient dans la société française. Voyez à quel niveau on se situe. Hein ? On se situe à un niveau où on mélange tous les niveaux, c'est-à-dire on mélange la question de quels sont les ingrédients nécessaires pour dire, et puis une sorte de modèle de modèle anthropologique qui est notre modèle individuel d'intégration qui, oui, suppose que je me départisse complètement de ces représentations et que j'en adopte d'autres. Et à la deuxième génération, en plus, on sait très bien que plus, par exemple, les enfants sont bilingues, plus parleront bien le français. Donc cette question de la langue est une question qui fait partie de nos préjugés extrêmement profonds. Alors, je disais donc maintenant, voyons la définition de cette perspective transculturelle, donc appliquée à l'éducation thérapeutique. Donc la perspective, c'est de pouvoir faire cohabiter deux choses que parfois on oppose, qui sont l'universalité psychique et le codage culturel des représentations de la maladie. Enfin, on va voir que ce codage culturel se déploie sur plein de niveaux différents. Alors, l'universalité psychique, ça va de soi, hein. C'est le cœur de la perspective transculturelle, c'est de dire que c'est parce que on est dans le cadre de l'universalité psychique que l'on peut se rencontrer et être au même niveau, que l'on peut engager une relation, que cette relation elle a du sens, et que les deux partenaires, même s'il y en a un qui est par par médecin et donc en position un peu de pouvoir sur l'autre qui est patient, qui vient lui demander quelque chose, que malgré cette relation asymétrique, on est dans le cadre de l'universalité psychique. Et alors l'universalité psychique, comme son nom l'indique, sans hiérarchie des représentations ni des valeurs. C'est-à-dire que l'universalité psychique, ça veut dire une universalité psychique concrète. Bien sûr, philosophiquement, c'est extrêmement important. Ça, c'est un postulat. Mais c'est bien plus que ça. C'est l'idée que, quelles que soient les représentations qui vont naître de cette universalité psychique, j'utilisais tout à l'heure la notion de transgression, eh bien, que ça, c'est le fruit de l'universalité psychique. Qu'en aucun cas, on peut dire, c'est moi qui définis l'universalité psychique. Je définis l'universalité psychique comme ceci, c'est-à-dire ce que je suis capable de penser. Et puis, ce que je suis pas capable de penser, on tombe malade parce que on a fait une transgression, on est possédé, on est ensorcelé, ou autre production de cette universalité psychique. Eh bien, je dirais, non, ça, c'est des oripeaux, c'est des vêtements, s'il vous plaît, enlevés, on va au cœur. Le cœur, c'est ce que moi, je définis comme étant l'universalité psychique. Non, l'universalité psychique, c'est tout ça. C'est-à-dire, c'est pas ce que moi, je définis comme étant au-dessus. Et c'est bien cette question de la hiérarchie des représentations et des valeurs qui se posent, et c'est ce qui nous fait penser à tous ceux qui travaillent sur ces questions. Et les anglo-saxons sont beaucoup plus transgressifs que moi sur ces questions quand ils en parlent, que nous avons beaucoup de mal avec l'universalité psychique et que nous faisons constamment des hiérarchies et que c'est un des éléments sur lesquels il va falloir travailler lorsqu'on veut modifier sa sensibilité et être en transculturel, d'essayer de modifier cette hiérarchie implicite que nous faisons. Ça veut dire que, hein, le patient dit ça veut dire que, et je traduis dans mes propres représentations. Non, il faut tolérer quelque chose, même si je ne sais pas ce que ça veut dire d'emblée. Cet enfant, il a un lupus parce que c'est un enfant sorcier, même si je ne sais pas ce que ça veut dire d'emblée. D'abord, je peux accéder à ces représentations par l'anthropologie. Je peux y accéder en permettant au patient de m'apprendre ce que c'est. Je peux de différentes manières. En tous les cas, je ne peux pas faire de hiérarchie, sinon je sors de la notion d'universalité psychique. Et alors, d'associer cette universalité psychique avec le codage culturel. En même temps, on ne peut pas opposer, on ne peut pas dire d'un côté il y a les universalistes et les autres, il y aurait les relativistes sur le plan culturel. Moi, ça ne me semble pas juste d'un point de vue épistémologique, mais d'un point de vue pratique non plus. C'est l'idée de la perspective transculturelle, c'est justement de les associer, de ne pas oublier qu'on est l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'à la fois, on tend vers l'universel, mais on y tend par le particulier, et c'est vrai pour les patients, comme pour moi. Et alors, ce codage culturel, on a l'habitude d'en définir un certain nombre d'axes. J'ai mis les plus importants pour notre sujet d'aujourd'hui. La notion, alors c'est le premier niveau, c'est la notion d'être, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un bébé, qu'est-ce que c'est qu'une femme, qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est qu'un petit garçon, une fille, la différence de genre, la différence de génération. Je prendrai pas d'exemple là-dessus, mais c'est très important parce que dès que, en plus, la maladie vient toucher un bébé ou vient toucher une mère ou un père, évidemment, ça vient toucher aussi cette fonction de l'être et ça va pas de soi. On peut passer beaucoup de temps à, justement, pour partager cette représentation de l'être, mais elle est pourtant très importante lorsqu'ensuite on veut modifier des choses et être capable, par exemple, de se soigner. Je donnerai des exemples sur le sens, par exemple, qui vient juste après, mais vraiment cette notion d'être est très importante aussi. Alors, deuxième niveau, c'est celui du sens. Zampleni disait donner du sens à l'insensé, c'est-à-dire que la maladie, c'est de l'insensé. La mort, évidemment, peut aussi être de cet ordre-là, bien que pas toujours, parce que parfois, il y a des possibilités de la pensée. Mais c'est pareil pour la maladie. Mais disons que l'annonce, par exemple, de la maladie, la souffrance liée à la maladie, l'anticipation de la perte, tout ça, c'est de l'insensé. Et donc, il y a un certain nombre de théories de sens, théories dites étiologiques, qui vont naître et qui vont avoir une place importante dans la relation. Et ces théories étiologiques, elles sont bien sûr d'origine psychique, elles sont d'origine familiale, elles sont aussi d'origine culturelle, avec une association entre tous ces niveaux. Alors, les exemples que j'ai déjà donnés, chemin faisant de transgression, ou de sorcellerie sont des théories étiologiques, souvent dénigrées, alors qu'elles sont d'une grande complexité. Et pour prendre des exemples de théories étiologiques que nous avons rencontrées dans l'étude, nous avions terminé il y a une année une étude sur avec Loïc Guivin, donc sur les représentations du lupus, le LED, donc le lupus érythémateux disséminé chez des femmes migrantes et non migrantes. Et dans les théories de sens qui apparaissaient, les théories étiologiques qui apparaissaient, alors d'abord on en a trouvé beaucoup chez les non-migrantes aussi, et chez les migrantes, il y avait énormément de théories qui concernaient donc la confusion, c'est-à-dire qu'il y avait l'idée que si on tombait malade, c'est qu'il y avait du désordre, et que ce désordre, il fallait en trouver la cause. Alors, il y avait ça qui était pensé par les patientes, puis bien sûr, il y avait ce qui était dit par les médecins. Et la question, c'était comment faire cohabiter et comment faire que l'une soit féconde l'autre. C'était ma première idée. Ce que nous avons montré dans cette étude avec les internistes, c'était que plus les patientes avaient des théories culturelles, qu'elles soient lointaines ou proches, plus les patientes avaient des théories culturelles sur la maladie, plus leur observance, leur acceptation de la théorie considérée comme externe par elles, qui était la théorie donnée par le médecin, donc plus elles avaient une théorie culturelle, plus elles acceptaient la théorie du médecin, parce qu'à ce moment-là, c'était une négociation entre des théories, mais il y avait un sens possible, plus donc elles étaient observantes, et plus l'évolution de leur maladie, en particulier en termes d'anxiété, de dépression, bas, faisait que l'évolution était meilleure, l'évolution somatique. Donc, dans cette étude, ce qui nous avait beaucoup intéressés, on a retrouvé des choses qui avaient déjà été montrées par d'autres au Canada, c'est que les théories culturelles, non seulement elles ne sont pas des obstacles au travail, à la relation, à l'éducation, mais au contraire, elles sont des possibilités. Elles viennent renforcer le pouvoir des patients, elles viennent renforcer le fait que les patients sont actifs, qu'ils sont capables de penser, d'avoir leur pensée, de se sentir actifs dans cette manière de faire. Et donc, d'une certaine façon, peuvent échanger avec leur médecin parce qu'ils sont en position un peu de force, puisque ces théories culturelles, elles appartiennent aux patients. Donc, ça, c'est pour le sens. Et puis après, il y a le faire. Il y a la question du faire. Rien ne va de soi. La parole, est-ce que ça va de soi de parler lorsqu'on est malade et lorsqu'on doit construire un projet thérapeutique? Non. Est-ce que ça va de soi d'être en relation duelle en face à face lorsqu'on doit négocier ou parler ou faire une consultation avec son médecin ou avec un soignant? Non. À la place de la relation duelle, il pourrait y avoir une relation de groupe, ce qui souvent est considéré par certains patients migrants beaucoup plus protectrice que la relation duelle. De la même façon que sur la question de la parole, parfois les patients migrants considèrent que avant de pouvoir parler eux, il faut leur dire une parole qui a un sens pour eux, qui est une autorisation symbolique de la parole. Et donc, je me tais, j'attends, et quand je pense que le moment que je suis autorisée à parler, encore faut-il qu'il y ait une vraie autorisation à parler, alors je parle. Donc, la question du faire ne va pas de soi. Elle est profondément culturelle et il y a parfois des adaptations du dispositif à faire. Bien sûr, les représentations de la santé et de la maladie, bon, j'ai cité des études sur le cancer qui avaient été faites par le Sœur ou Boisise avec la même méthodologie sur les représentations à la fois des patients et des soignants. Bon, il y a beaucoup d'études actuellement, mais qui montrent l'importance de ces représentations, quelle que soit la maladie à laquelle on s'adresse, somatique ou psychique. Ou Belfair, là, c'est une étude américaine sur des maladies auto-immunes. Et l'importance des parcours thérapeutiques des patients, qu'il faut savoir lorsqu'on négocie des projets thérapeutiques. Ces parcours thérapeutiques, ils sont pluriels. Il y a des très belles études, j'ai cité rapidement là une étude de Sylvie Fezang sur le devenir des ordonnances. Elle a étudié concrètement, c'est une anthropologue qui fait de l'anthropologie médicale, et elle a, dans le sud de la France, elle a étudié une centaine d'ordonnances, elle a suivi le parcours des ordonnances. Que devenaient les ordonnances qui étaient faites par des médecins différents? Et elle a fait trois groupes en fonction, alors c'est d'ailleurs étonnant les groupes qu'elle a fait, mais elle avait sans doute ses raisons, elle a fait des groupes en fonction donc de des monothéismes, hein, d'être donc soit chrétien, musulman, juif ou non ni l'un enfin ni les pas monothéiste. Et elle a suivi concrètement le devenir, comment ça va de la rédaction de l'ordonnance jusqu'à la prise en prise de l'ensemble des médicaments. Alors évidemment, vous pouvez imaginer toutes les étapes absolument faramineuses de l'ordonnance qui est pliée comme un talisman et mis dans qui est mis dans sa poche ou mis sous son oreiller pour dormir avec une ordonnance qui protège. Comme un talisman, ou alors on achète les médicaments, on regarde la couleur, en fonction de la couleur on met une représentation, et si la représentation est chaude ou si elle est froide, ça sera pas de la on la prendra ou on la prendra pas. Donc la couleur va déterminer plus que l'intention du médecin. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec les médicaments? On va les associer à d'autres médicaments que vous ignorez, mais qui ont une importance très très grande puisqu'ils viennent se mixer avec les autres médicaments qui ont été sur ces ordonnances. Et puis, évidemment, il y a des médicaments qui sont pilés et mis dans des petites enveloppes et utilisés soit pour ingérer, soit pour des bains. Et donc, le devenir de... Et c'est non seulement passionnant, mais c'est important de savoir le devenir de tout ça. Mais est-ce que ces éléments-là peuvent être repris dans une consultation pour en définir justement un parcours, une négociation? Évidemment, on imagine que ça prend beaucoup d'importance. Bon, pareil pour la question des médicaments. Je crois qu'il va falloir que j'avance. Pour aller... n'est-ce pas, Rémi? Alors, on va passer sur la philosophie, c'est quand même très important, mais... Je vous donnerai une référence tout à l'heure. Bien sûr, il faut concilier identité et différence dans ces relations. Alors, en intégrant des éléments comme la temporalité, les résistances nécessaires à des choses qui concernent la maladie et la mort, un certain nombre de défenses qui vont venir, qui sont des défenses à la fois psychologiques et culturelles, avec une intrication évidemment très importante du psychique et du culturel, et... au fond, d'essayer de pouvoir partager cette subjectivité, qu'elle soit individuelle et collective, et finalement singulière. Parce que qui dit culturel ne dit pas général. Culturel, ça veut dire ça repasse toujours par l'individu qui se l'approprie, comme les ordonnances, par exemple, ou les médicaments. Bon. Les propositions transculturelles, linguistiques, j'insiste pas, je l'ai dit, la capacité d'intégrer des éléments culturels dans nos dispositifs, de les valoriser, de rendre le patient actif et de se décentrer. Alors je vais juste finir sur ce point-là, l'importance du décentrage du médecin qui doit faire un travail, du soignant, qui doit faire un travail sur la hiérarchie que lui fait sur ses parcours, ses représentations, sa propre identité, ses réactions face à la différence qu'on appelle, nous, dans le jargon, le contre-transfert culturel, c'est-à-dire les réactions nécessaires. C'est obligatoire de réagir face à la différence. On y réagit selon un panel qui va du racisme à la fascination. Et entre les deux, il y a tout ce qui nous permet justement d'être créatifs avec nos patients, d'apprendre d'eux, ça c'est très important, et de modifier nos dispositifs en introduisant la langue, le groupe quand c'est nécessaire, les représentations, pour que chacun, là où on est, on augmente notre sensibilité, notre expertise, et avec une formule qui était une formule de mon maître Lebovici, qui était de co-construire, c'est-à-dire que la relation, le cadre, le projet dans le cadre d'une éducation thérapeutique, ça doit être une co-construction, quelque chose où il y a de la place pour ces éléments de l'être, du sens et du faire. Les ingrédients de cette co-construction, vous les imaginez, l'information, l'importance de cette information juste et partagée, ce qui ne va pas de soi. Hein. Lorsqu'on vient en deuxième intention, on se rend compte combien un certain nombre d'informations n'ont pas été élaborées. La singularité de cette relation, y compris dans ces éléments transculturels, et le respect des affiliations du patient. Alors j'ai mis une bibliographie vraiment limitée, c'est juste un livre de base sur ces questions de psychopathologie transculturelle, un site, transculturel.org. Et ma conclusion, c'est bien sûr de ne pas oublier que nous sommes aussi des êtres culturels et que ça joue dans la relation. Alors, je pose ma question. Quel est l'obstacle majeur aux situations transculturelles? Les préjugés culturels du médecin? Oui ou non? Donc, on vous demande une réponse par oui ou non. Et je vous remercie de votre aimable attention.
Grand merci, Marie-Rose. Voilà, on va donc débattre grâce aux animateurs par groupe un peu entre vous de quel est l'obstacle majeur en situation transculturelle et est-ce que c'est les préjugés culturels du médecin.